Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Time Sport sur Beurre FM, votre émission sport quotidienne 20h, 21h. On salue Bilal qui n'est pas avec nous ce soir. C'est moi, voilà, comme la plupart des jeudis. J'ai la lourde tâche, de suppléer l'excellent Bilal Nenman. Avec moi ce soir, ils seront trois consultants, deux déjà en place. Abdel, abonné de la semaine, abonné des vacances de Noël. Bonsoir Abdel.
Bonsoir Claude, bonsoir à toutes et à tous.
Comment ça va?
Je suis content d'être là, ça va très très bien.
Ouais.
J'ai fait toute la semaine et on espère que ça va se passer aussi bien que les jours précédents.
Tout ouais, je rappelle que vous pouvez aller sur l'Instagram d'Abdel notamment. Alors lui qui nous fait quelques bilans notamment de la saison Ligue 1. T'es top, t'es flop, ton avis, tes avis. Donc allez sur son Insta. Vivien est avec nous ce soir.
Comment ça va,
Claude? Écoute, ça va très bien et toi?
Bonsoir aux auditeurs, aux auditrices. Et puis, on a un bel invité ce soir.
On a un bel invité. Comment tu te sens là, à l'avant-dernier jour de cette année 2021?
Déjà, on est là. Puis, il y a toujours du basket, ce qui est le plus important. Donc, voilà, il y a le sport. Ça continue encore malgré cette période. Donc,
ouais.
On est plus ou moins en bonne santé, donc il faut profiter.
On essaie un peu dans le 18e de pratiquer un petit peu le basket.
Toujours, en tout cas, il y a des belles associations et donc on salue la chapelle, la goutte d'or en tout cas.
Ouais, la chapelle, la goutte d'or, terre de sport, ouais, forcément. Mourad nous rejoindra également, il est sur la route et notre invité ce soir, Greg Emema est avec nous en plateau. Salut Greg.
Ça va?
Ça va très bien.
Ouais, super.
Un plaisir en tout cas de vous avoir pour la première fois sur Time Sport, Beurre FM.
Oui, oui.
Voilà, on reviendra avec vous sur votre parcours et puis voilà, vous êtes il y a du monde, vous êtes suivis, Abdel, Mourad et Vivien feront le plaisir de vous poser un maximum de questions au sommaire de ce Time Sport du soir. On fera un petit tour du côté de la Colombie avec Bilal Venture que l'on a en général le lundi et le jeudi. On parlera notamment de la CAN avec la Tunisie, la liste qui est, a été dévoilée aujourd'hui, la fin entre Dembélé et le FC Barcelone très certainement, et puis Tourelle et Chelsea, ça paraît assez compliqué. Allez, tout de suite le JT
Time Time Sport.
Et oui, on démarre les infos du jeudi par le départ officiel de Laurent Batles de l'Estac. L'ancien joueur de l'OM qui a entraîné l'équipe troyenne depuis 2019 s'est séparé en commun accord avec ses dirigeants. Hier soir, annonce le club. Un autre ancien Marseillais fait parler de lui aujourd'hui, c'est Mathieu Valbuena qui gagne son procès contre l'OM datant de 2014. Le club olympien a été dans l'obligation de verser la somme de 568 000 euros à son ex-joueur. On enchaîne avec les cas Covid, bien évidemment, et le SCO d'Angers qui compterait pas moins de 10 cas positifs dans son effectif. La demande de report de son match face à Saint-Etienne prévu le 9 janvier prochain a été bien évidemment demandée par le club. En Afrique également, le Nigérian Victor Osimhen a été détecté positif et va devoir rester isolé avant de rejoindre le groupe en retard donc au Cameroun pour débuter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. En NBA, Kyrie Irving a effectué son retour lui dans la franchise de New York ce jeudi après avoir été écarté en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid dernièrement. Voilà, c'est tout pour ce soir et cette actualité très Covid. Une bonne soirée à tous sur Time Sport avec Bilal et toute l'équipe.
Ce soir et toute l'équipe et l'excellent JT de Jason. Je ne sais pas si on est déjà en connexion. On va avoir Bilal Venture dans quelques instants. Cet athlète, qui nous fait son périple sud-américain. Il a, on le suit depuis quelques semaines. Il a rallié différents États, différentes régions du Brésil. La dernière fois que j'étais, je crois, à l'antenne, il était du côté des montagnes chiliennes et puis là, il est du côté de la Colombie, de l'aventure. Monsieur Mourad avec nous qui vient d'arriver à l'instant. Mourad, comment ça va?
Écoute, ça va très bien. Très content de revenir sur le plateau, échanger avec vous, parler football, parler sport. On va parler MMA, donc ravi de vous revoir un peu tous autour de cette table.
Tu vois, t'arrives un peu au bon moment, c'est comme si t'as eu une action qui est partie du gardien de but. Toi, on s'est dit, mais attends, Mourad, il est pas dans le coup. Et finalement, t'as fait un appel de 120 mètres et on te voit, caméra isolée. Et là, t'arrives plat du pied, but.
Exactement, plat du pied, sécurité. Et tu auras remarqué que j'arrive même pas à essouffler. Incroyable.
C'est le travail.
D'ailleurs, je passe une petite dédicace Notre chauffeur Uber Steven, originaire du Cap-Vert, qui va suivre la Coupe d'Afrique des Nations avec attention, et notamment sur les ondes de Beurre FM et l'émission Time Sport.
Ils sont beaucoup hein, de chauffeurs Uber justement à suivre, à nous écouter sur Beurre FM, et notamment ils vont suivre la Coupe d'Afrique des Nations. Allez, on passe au premier sujet.
Time Sport. Le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux.
Les amis, la Tunisie a dévoilé sa liste pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022 qui va se dérouler au Cameroun. On n'en parle pas trop de la Tunisie, mais pourtant, ça se met en place. Hein. Ils sont là.
Ouais, c'est une équipe qui a peut-être moins brillé ces dernières années sur le continent. Malgré ça, il y a eu une demi-finale de Coupe d'Afrique où ils sont passés vraiment à deux pas de se qualifier pour justement la finale. Il y a eu la Coupe arabe où ils ont montré pas mal de belles choses avec des joueurs locaux, notamment de l'Espérance de Tunis ou de l'Étoile du Sahel. Dans la liste qui nous est proposée, on retrouve des beaux noms comme Dylan Bron, Elias Kiri, Saïf Edine Kaoui, Wabi Kazri, ou même encore Naïm Sliti, qui est quand même un joueur dont on parle pas assez, je pense. Donc voilà, hier on le disait, pour moi ça va être une CAN qui va être assez particulière avec pas mal de surprises, et on va pas être au bout d'une surprise, je pense, et qu'on sera surpris de peut-être du potentiel vainqueur ou peut-être du potentiel dernier carré de cette CAN.
Là où j'allais venir, Mourad, c'est que, excuse-moi Abdel, c'est que la Tunisie, on en parle un petit peu moins en général. Alors vous allez m'expliquer peut-être pourquoi, que l'Algérie et que le Maroc, et pourtant ils sont régulièrement en Coupe du Monde.
Exactement.
Ils vont souvent au Mondial.
Exactement, tu fais bien de rebougler, j'allais rebondir là-dessus justement, Claude. La Tunisie, ils finissent souvent dans le dernier carré en Coupe d'Afrique. Enfin, ça arrive très souvent. Mmh. En Coupe arabe, ils arrivent en finale. Ils vont très souvent en Coupe du Monde. Et sur le fait qu'ils soient moins populaires que d'autres nations, c'est qu'ils n'ont pas de stars, en fait. La Tunisie, c'est avant tout un groupe. Pour moi, je vois la Tunisie aller très loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est... En fait, la Tunisie, c'est à la croisée des chemins. Donc, c'est soit l'aboutissement d'une génération, d'accord, soit la fin d'un cycle. Il y a des joueurs comme Wabi Kazri, comme Sakni, c'est un mélange de jeunes talents comme Mejbri, comme Ben Slimane de Brøndby, comme Talbi qui évolue au Rubin Kazan. Donc ils ont un mélange de tout. Il y a du talent, il y a de la technique, il y a de l'expérience. Il a parlé de Naïm Sliti notamment, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et la Tunisie est souvent présente dans le dernier carré. Donc moi je les vois aller très loin. Tous les ingrédients sont réunis. Il y a pas de cas Covid. Ils se basent, comme l'a dit Abdel, sur les championnats locaux, donc l'Espérance de Tunis, l'Étoile du Sahel, etc.
C'est un des championnats les plus développés en Afrique.
Exactement,
hein.
c'est un des meilleurs championnats d'Afrique, peut-être dans le top 3.
Ouais.
Le seul bémol que je vois à cette équipe tunisienne, c'est peut-être l'entraîneur, moi, qui n'a pas les épaules, je pense, pour diriger cette équipe. C'est un joueur qui est un choix par défaut, au détriment de Maaloul et de Benzarti. Donc voilà, mais à part ça, il faudra compter sur les Tunisiens sur cette Coupe d'Afrique.
Ouais,
voilà.
Juste pour rebondir sur ce que dit Mourad, c'est vrai que moi je vois un point faible, mais plus défensivement, c'est vrai que quand on arrive au milieu de terrain, il y a quand même de la qualité. Devant, ils sont capables de marquer des buts, mais il y a cette défense qui est un peu, on va dire, fébrile, et aussi le choix du gardien. On sait que, par exemple, Moez Hassen était le gardien titulaire lors de la dernière Coupe d'Afrique, il n'est plus dans le groupe.
Il a été écarté pour des raisons légitimes.
Mais
frappe cadrée, c'est ses buts.
Mais
avec Moez Hassen. On le salue d'ailleurs.
Potentiellement, après, sur ce qu'on dit sur les championnats locaux, quand on va jouer une Coupe d'Afrique, on sait que l'environnement africain est particulier. Et quand tu as l'habitude, que ce soit que tu joues dans un pays d'Afrique du Nord ou même un pays d'Afrique noire, et ben au final. Si t'as l'habitude d'évoluer dans ce genre de continent ou même dans ce genre d'environnement, potentiellement tu peux arriver moins déstabilisé, t'as peut-être moins de préparation à réaliser pour ça. Après, comme il le dit Mourad, ce qui est bien aussi, c'est que en général, c'est vrai que ils finissent un cycle et la compétition d'après, ils recommencent avec un cycle. Là, ils commencent déjà à intégrer des nouveaux joueurs pour potentiellement essayer de jouer
leur progressif.
Animal Mejbri, on n'en parle pas, mais potentiellement.
Animal
Mejbri qui est pas mal du tout. Il y a aussi, on parlait, bon, ça c'est encore.
Il y a Kaoui, l'ancien Marseillais, Kaoui,
qui pourrait potentiellement attirer.
Ah oui, mais
pas pour cette CAN.
Pas pour cette CAN.
C'est pour dire qu'ils ont des idées et qu'ils sont capables de réaliser de bonnes choses, mais moi je les vois aller aussi loin et ça peut être une surprise.
Merci Abdel. Mourad, Vivien.
Deuxième prénom, Vivien Mourad.
T'aurais pu traduire Mourad en latin, ça veut dire désiré, mais malheureusement il s'appelle Vivien. Bon, vu qu'il est, d'origine congolaise, donc ça aurait pu fonctionner.
Ça aurait pu. Non, mais finalement, je suis assez d'accord avec vous. Je trouve que l'effectif, il est assez homogène.
Merci,
vous aviez parlé aussi des joueurs locaux qui jouaient en Tunisie, mais il y a aussi ceux qui voulaient emmener en Égypte, pour bien certains de Zamalek, etc. Donc,
exactement.
Je trouve que l'effectif, il est assez homogène. Et même ceux qui, potentiellement, peuvent sortir du banc, on pense à l'attaquant de Troyes,
Tousgard. Qui va apporter. Moi, je les vois vraiment arriver dans cette Coupe d'Afrique avec une. En mode contre, non, ils vont jouer en mode contre, en transition rapide. Je pense que Tousgard à la dernière minute, ça envoie un message un peu aux adversaires de la Tunisie en disant on va jouer bloc bas peut-être et très rapide vers les transitions offensives avec des Tousgard, avec des Wahbi Khazri qui n'étaient pas en coupe arabe. Donc je suis d'accord avec Vivien. Tousgard, faudra compter sur lui. Je pense qu'il sera sur le banc, exactement. Mais ils ont une profondeur de banc et ils vont capitaliser sur ce qu'on a vu en coupe arabe parce que c'était même s'ils ont perdu en finale. Ils sont arrivés avec un effectif très jeune. Ouais. Et avec les joueurs expérimentés qui arrivent, Tousgard, il a quel âge? Il a 34 ans, je pense. Ouais. Même si, malheureusement, Troyes, qui traverse une mauvaise période, va perdre ce type de joueur. Même l'AS Saint-Etienne, qui perd Khazri pendant un mois.
Ouais.
Ça va être compliqué pour eux.
C'est un peu le seul joueur qui a...
Je sais pas pourquoi j'ai ce discours-là, en fait. En fait, je devrais en avoir rien à faire, en fait. La CAN, c'est la CAN et advienne que pourra pour les clubs. Mais voilà, il y a des clubs qui vont perdre certains joueurs.
Tu dirais pas ça si c'était Arsenal. Hein.
Non, la CAN, c'est la CAN. La CAN est une compétition. Thomas Partey qui part, ça me dérange pas. Il y a Granit Xhaka qui va le remplacer dignement.
Et puis surtout, Mourad, cette année, regarde toutes les absences qu'il y a dues au Covid. Donc finalement, les clubs se plaignent, les joueurs vont perdre des joueurs pendant un mois à cause de la CAN. Mais
je ne sais pas si vous avez remarqué, en France, j'ai l'impression, les raisons pour lesquelles il y a un traitement médiatique de la sorte, c'est que à la veille de chaque annonce, au lendemain de chaque annonce d'effectifs ou de sélection africaine, dit 5 joueurs bien rejoints. La sélection tunisienne. On a l'impression qu'on parle de cas positifs au Covid dans les effectifs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc le message, il est bizarre. Donc je vois pas en première ligue, quand un joueur de l'équipe de France ou un joueur de l'équipe d'Espagne est annoncé dans la liste, j'ai pas l'impression qu'il se. En gros, c'est on ampute un joueur à un club. Il y a ce message là en fait.
Il y a cet environnement un peu plane où. Tel club va perdre 3 joueurs. Ah, c'est embêtant.
On n'annonce pas la compétition, mais on annonce qu'un club sera amputé de tant de joueurs qui rejoint cette compétition.
Mais sur ce que dit Mourad, là il y a une tendance qui arrive sur les réseaux sociaux, c'est oui, faudrait que la CAN se joue comme toutes les autres compétitions parce que ils payent quand même les joueurs pendant leur absence, etc. Mais finalement c'est la FIFA qui décide de mettre à ces dates là, donc quand on est soumis aux dates FIFA, les clubs doivent respecter ce qui est dit.
Attends, qui a dit ça? Qui dit ça? Je me permets.
Non, mais
qui perd son temps.
Le calendrier, c'est une vraie excuse. Hein.
Non, mais
le calendrier, c'est une vraie excuse qui est utilisée, on va dire, de manière un peu sournoise par les clubs pour bloquer certains joueurs ou faire pression pour certains joueurs. Mais le calendrier, c'est clairement un souci. Organisons les compétitions à la même date. Arrêtons l'excuse du climat. Aujourd'hui, il y a des.
C'est en été.
Non, en été. Au Cameroun, c'est la saison des pluies.
C'était beaucoup de fois en hiver.
Oui,
ça n'a jamais été réellement un problème jusqu'à ce que, pour moi, c'est fou, mais tu sais que en fait, dans ton effectif, quand tu recrutes des joueurs africains, tu sais qu'ils vont te faire du bien et t'as pas envie de les perdre. Mais pour moi, ça a toujours été quelque chose de logique et ça a été, c'est implanté que ça a eu lieu en hiver, tu vois. Et finalement, le fait qu'on veuille décaler un peu ça. Ça reste compliqué aussi.
Pourtant, on devrait garder la Coupe d'Afrique en hiver et on ne devrait pas la mettre en été. Et ce qui permettrait justement au club.
Il y a des problèmes. On peut tout simplement au niveau du climat. Je suis pas un géographe, mais personnellement, tu sais qu'il fait 40 degrés en été. Il fait très chaud. C'est pas des bonnes conditions.
Ils n'arrêtent pas les compétitions comme le mondial.
Tout dépend.
Ça pose pas.
Tout dépend du pays.
Ça pose pas.
Excuse-moi, je me permets de rebondir. Tout dépend du pays hôte. Bien sûr que si on va jouer au Cameroun et qu'en été le Cameroun c'est la saison de forte chaleur et de saison des pluies, ça va être très compliqué. Donc faisons du cas par cas. Avec l'Égypte, ça s'est très bien passé. La CAN s'est jouée en été, même s'il faisait très chaud. Dans le sud de l'Espagne, à Gijón, il fait aussi 40 degrés.
C'est
au
vrai.
C'est
vrai.
Ce que je veux dire.
Finalement, mettre la CAN en été, c'est comme si on déplaçait l'Open d'Australie.
Merci Vivien. Allez, on se retrouve juste après.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
On est de retour pour la deuxième partie de Time Sport sur Beurre FM avec notre invité ce soir, Greg MMA, qui sera avec nous, qu'on va entendre dans quelques minutes. Mais tout de suite, on va prendre la direction de l'Amérique du Sud. Ah non, il n'y a pas de jingle. Tchou, 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 America.
Time Sport.
Et Samba, là, peut-être, ou
il,
de...
Il a été bon, il s'est adapté. Alors, Samba, je sais pas, je crois que là, c'est du côté de la Colombie. Bilal Venture.
Parce qu'il a commencé par le Brésil, en fait, c'est pour ça que...
Ouais, on prend la direction de la Colombie avec Bilal Adventure. Comment ça va, Bilal?
Oui, bonsoir Paris, bonsoir Beurre FM, bonsoir Time Sport. J'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien pour vous.
Bah, ça va. Ouais, nous, ça va impeccable. Bilal, dis-nous un petit peu là, où tu es exactement?
Alors là, aujourd'hui, je suis à Cartagène des Indes, donc au nord de la Colombie. On s'est loupé l'autre jour à deux reprises, bon, par rapport à l'altitude et plein de choses. Donc j'étais en Bolivie. Après la Bolivie, c'est le Pérou. Donc je reprends à partir du Pérou. Donc je suis arrivé à Lima. De Lima, j'ai été à Ica, et de Ica à Nazca, et ensuite à Cuzco, c'est-à-dire dans les hauteurs. Et à partir de là, bon, on a vu franchement les locaux, les indigènes, les descendants des cas, au Machu Picchu, au lac Titicaca, au flottant là-bas. Et aujourd'hui, ben, on est en Colombie. On est arrivé directement à Bogota où on avait fait deux jours.
Ouais.
Et là, aujourd'hui, je suis à Cartagène. Voilà.
Ouais. Tes premières impressions, justement, sur la Colombie, Bogota, on en parle beaucoup, on en dit tout et son contraire. Toi, ton ressenti?
Honnêtement, j'ai trouvé ça, enfin, par rapport à moi, c'est un peu familier, ça veut dire que, bon, voilà, j'ai vu comment ça s'appelle les favelas au Brésil, je suis de Marseille, et honnêtement, j'ai pas vu des choses de fou. Après, c'est sûr que c'est assez, comment dirais-je, il y a beaucoup de quartiers populaires là-bas, les gens ils sont bons vivants, ça bouge bien. Après, tu sens que c'est un peu tendu dans l'ensemble, mais bon, après, je n'étais que deux jours, donc j'ai pas pu tout voir en détail. Et voilà, mais sinon les gens ils sont super accueillants en Colombie, à Bogota, voilà, tu poses des questions, les gens te répondent. Après, c'est sûr que voilà, c'est pas la France, c'est gaffe au niveau de la sécurité, etc. Et voilà.
Ok. Vivien.
Justement, t'as fait le Pérou. Est-ce que tu peux nous décrire une expérience humaine, peut-être avec des gens que t'as pu partager malgré tout dans ce laps de temps?
Ah oui, bien sûr. Ben moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est au plus haut lac du monde, qui est le lac Titicaca. Il y a encore des gens qui vivent sur des îles.
Le lac Titicaca? Excuse-moi. Hein.
Tout à fait, le lac Titicaca, ouais, c'est ça.
Ah, Titicaca, pas Titicaca en référence à l'épopée Guardiola.
Ah non, c'est...
Excuse-moi, j'ai peut-être un peu trop loin dans mes pensées footballistiques. Désolé, je t'ai coupé.
Ok, souci. Donc voilà, en fait, c'est un lac qui fait la frontière entre la Bolivie et le Pérou. Donc moi, j'ai du côté péruvien. J'ai eu la chance d'aller sur les îles Uros. En fait, c'est les îles construites par les descendants d'Inca, etc., qui jusqu'à aujourd'hui vivent encore dessus. Voilà, de toute façon, j'ai à peu près tout mis sur les réseaux sociaux. Et honnêtement, franchement, ça m'a vraiment choqué de voir qu'il y a encore des gens qui ont beaucoup plus de valeurs que de moyens. C'est-à-dire que dans ces endroits-là, les gens misent encore plus sur le être que sur le avoir.
Ouais.
C'est-à-dire... Donc à partir de ce moment-là, en fait, c'est une leçon d'humilité pour nous, Européens. Et en fait, on se dit qu'il y a encore des gens en ancienne qui sont heureux avec rien. Après, bon, après, je suis rentré dans beaucoup de questions oratoires sur des sujets philosophiques pour voir si vraiment, après, les moyens, c'est ce qui nous rend heureux, etc.
Mourad,
voilà,
question.
Franchement, c'est une magnifique expérience. Parce que moi, là, j'ai beaucoup partagé sur les réseaux, avec les gens qui suivent sur Instagram, sur Snapchat, les gens qui posent des questions, et on essaie de répondre à tout le monde.
Mourad, dernière question.
Moi, j'ai une question. Donc, je pense que je le suis un peu, Bilal, sur les réseaux sociaux. Son périple arrive à sa fin, éventuellement. Et je voulais savoir s'il devait retenir, non pas un pays, mais un endroit, une ville, un spot, ce serait quoi? Ce serait quelle ville, quel endroit, de ton côté, Bilal?
Alors, par rapport à moi, jusqu'à présent, tout ce que j'ai pu voir, c'est l'endroit qui m'a, on va dire, le plus marqué, où je me suis le plus senti à l'aise, c'était au nord-est du Brésil, dans l'état de Bahia, la commune qui s'appelle Santa Cruz de Cabralia, donc à côté de la grande ville de Porto Seguro. Franchement, pour moi, c'est, voilà, c'est magnifique, tout s'est très bien passé, je me suis senti à l'aise. Et c'était à cet endroit.
Bilal, pour terminer, est-ce que tu pourrais nous redonner tes réseaux sociaux pour qu'on puisse continuer à te suivre?
D'ailleurs, en parlant des réseaux sociaux, voilà, l'aventure, comme vous l'avez dit, touche bientôt à sa fin. Donc c'est Bill Adventure, que ce soit Instagram, Facebook, Snapchat et Road to Bill Adventure sur YouTube, pour voir un peu les épisodes que j'ai déjà sortis, les restes arrivent. Alors j'organise un jeu concours qui va débuter à partir de demain. Tout va être expliqué sur Instagram. Où à la clé, il y aura soit le choix de gagner l'iPhone 13, soit gagner un bout d'excursion avec moi. Enfin, la gagnante, elle gagnera ça pour la prochaine aventure où tout sera compris. Voilà.
Merci. Merci infiniment, Bilal. Et on peut le dire, même si ce n'est pas encore terminé. Félicitations et bravo pour cette initiative et pour ce périple.
Merci beaucoup. Merci Bilal.
Merci beaucoup. Là, il reste encore Medellin et dès qu'on aura fini, on se reverra ensemble.
Fais attention à tes valises à Medellin, sur le retour. Merci. Surveille bien tes valises. Cadenasse-les bien et bon retour. Là, on va faire la transition parce qu'on va parler MMA aussi, Bilal. Donc, n'hésite pas à rester et écouter l'émission.
MMA, pas de problème.
Et oui. Merci Bilal, merci infiniment. On se retrouve lundi. Pour de nouvelles aventures.
Allez,
on passe à notre invité.
Time Sport. The Special One. The Special One. The Special
One. Notre invité ce soir, nous avons Greg Emema qui est en plateau avec nous. Comment ça va, Greg, depuis le début?
Super, là je vous entends parler, je comprends rien, mais ça a l'air sympa votre sport.
Le foot, c'est pas du tout votre délire.
Quand il y a la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde, mais sinon, ça passe au-dessus de la tête.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours, Greg?
Il est assez long, mais bon.
Résumer.
Les grandes lignes. Ouais. Je commence avec le karaté. Le jiu-jitsu brésilien, puis après j'ai voulu tester des sports un peu plus extrêmes, donc les combats en cage, tout ce qui se faisait comme l'Ultimate Fighting ou le Pride à l'époque.
Ouais.
Donc voilà, j'ai combattu au Pride notamment, au Cage Warrior, et puis j'ai une petite carrière au sympatoche.
Ouais.
Et puis maintenant, je fais des vidéos YouTube qui cartonnent.
Ça cartonne pas mal, il y a du monde là.
Ouais, je suis un petit peu le Thibaut in shape des arts martiaux. j'essaie de démocratiser tout ça, et puis de... La chose particulière que je fais, c'est que je vais au charbon avec les champions de toutes disciplines, donc que ce soit du judo, des champions olympiques de judo, des grands combattants de boxe thaï, comme le Banner récemment, ou des lutteurs, des combattants de MMA, des mecs de l'UFC. Donc je vais au charbon, je les interviewe dans la bonne humeur, et puis on essaie de rigoler.
Ouais.
Je pense que c'est ce qui plaît aux gens, quoi, de la bonne humeur et de la castagne.
Mmh. Greg, Abdel. Justement, pourquoi s'être lancé sur YouTube déjà dans un premier temps? Et là, dans un second temps, c'est vrai que vous avez cité pas mal de disciplines et que vous continuez justement à les pratiquer. Au bout d'un moment, on se perd pas à travers tout ça, même si on est un passionné. Est-ce qu'on perd pas un peu la main dans certaines disciplines?
Alors, ta première question, comment j'ai commencé YouTube, ça fait un peu par hasard sur la chaîne Karaté Bushido. Okay. J'intervenais de temps en temps avec d'autres intervenants, mais bon, il se trouve que il semble que j'ai un charisme particulier. Donc ça aide énormément.
Je confirme sur le plateau. Hein. Vivien, il est recroquevillé sur lui-même depuis le début de l'émission.
J'ai que le coup, il peut partir à tout moment. Là, je suis en position de défense.
Et la chaise à côté est vide, donc voilà. Donc ça prouve le charisme.
Ah, dès que je suis rentré dans la pièce, je vous ai tous senti transpirer, les mecs.
On était pas bien.
Et c'est pas parce que t'étais en retard. Et pour répondre à ton autre question, donc de toute façon, le MMA, c'est un sport où on mélange tout. Donc fatalement, on peut pas exceller dans chaque discipline. Le but, c'est d'être stratégique suffisamment, d'être un stratège suffisamment fin pour amener l'adversaire dans sa discipline, en tout cas dans son pôle de prédilection.
Et justement, c'est quoi ta discipline, là où t'es le plus à l'aise?
Moi, il y a deux choses où je suis très fort, entre guillemets, c'est quand on est par terre et qu'on s'étrangle et qu'on se tord les bras, et les coups de pied aussi, ils sont bons.
Ça marche, ok.
Mourad?
Non, moi je voulais savoir, le MMA, c'est Mixed Martial Art. Je pense qu'il a confronté plusieurs disciplines et je voulais savoir quelle était la discipline, on va dire, la plus efficace dans ce sport du MMA. Moi, je suis pas un spécialiste, mais étant donné que ça regroupe différentes disciplines, j'imagine qu'il y a bien une discipline. Est-ce que c'est le jiu-jitsu brésilien? Est-ce que c'est la lutte gréco-romaine? Est-ce que c'est la boxe thaï? Quelle est la discipline la plus efficace pour aller au bout, justement, de ce sport?
Alors, pour aller dans ce sport particulier, tu as bien fait de préciser efficace pourquoi? Parce que l'efficacité, ça peut regrouper beaucoup de choses. efficace dans la rue, efficace dans une cage, efficace pour se sentir bien, efficace pour être souple. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont efficaces pour telle ou telle chose. Et pour le MMA, je pense que le sport de base, et les experts sont unanimes à ce sujet, sera plutôt la lutte libre. Donc ça nous permet d'amener l'adversaire au sol et de tabasser. C'est pas les sportifs les plus fins au niveau des soumissions. Et en boxe, en général, c'est des gros bourrins. Mais ça nous permet de passer à travers les gouttes et de pouvoir en sortir victorieux. Mais comme tu l'as dit, le mixed martial arts, c'est les arts martiaux mélangés. Donc le but, c'est quand même d'être le plus complet possible et de pouvoir associer donc une bonne base de lutte avec des bonnes percussions et des soumissions létales, quoi.
Vivien,
alors dans ta carrière pro, tu as 3 victoires en MMA. Est-ce que tu peux expliquer aux éditeurs comment tu as commencé? Parce que, bon, sans rappeler ton âge, on a oublié de dire que tu as plus de 40 ans, c'est une manière de dire que à l'époque, il y a 20 ans, même 15 ans, c'était moins accessible aux Français. Donc comment est-ce que tu avais choisi ça plutôt que le kickboxing peut-être ou d'autres?
Ah oui, je sais pourquoi tu dis 3 victoires. Donc 3 victoires contre des combattants du UFC en fait.
D'accord.
Mais sinon j'ai 5 victoires en combat pro. C'est pas énorme. En tout, j'ai 9 combats. Mais tu vois, un gars comme Cyril Gane qui est au toit du monde aujourd'hui, il a 10 combats par exemple.
Ouais.
Donc c'est pas forcément le nombre de combats qui importe, mais plutôt contre qui. Comme je dis souvent, bah écoute, t'as perdu contre le Barça ou le PSG, t'as perdu 1-0, ok frère, t'as perdu, mais bon, c'est quand même le Barça ou le PSG. T'as pas pris des guignols, une petite équipe.
Ouais, ça reste louable, bien sûr. Déjà, juste le fait de rentrer dans une cage, pour moi, déjà, c'est d'un courage énorme. Bah oui. Pour moi, ça mérite. Pour moi, il n'y a pas de victoire ni de défaite. Juste le fait d'être dans une cage et d'affronter une personne en mixed martial art, déjà, c'est juste incroyable.
C'est vrai que de l'extérieur, c'est quand même, quand on n'est pas dans ce type de discipline, c'est impressionnant de se dire tu rentres dans cette cage. Comment on se prépare justement à affronter ce type de.
Bah, de toute façon, déjà, il faut avoir une certaine mentalité. Faut être un peu casse-cou, faut être un peu fou. Ouais. Faut être un peu un grain de folie. J'ai un ami qui me disait souvent, il m'a dit, tu peux aller voir tous les combattants. Il n'y en a pas un qui est forcément équilibré. D'ailleurs, de toute façon, on a tous notre grain dans notre tête, ou sinon, on serait pas très intéressant. Que ce soit moi ou vous, mais, chacun a sa manière d'exprimer le grain qu'il a dans la tête. Bah, nous, c'est en allant au charbon, en se battant, parce qu'on aime ça surtout, hein.
Mourad.
Moi, j'avais une question sur le livre de Greg, c'est MMA, tous mes combats. J'ai vu que t'es passé par les combats amateurs, d'autres disciplines, etc. Si tu devais en retenir un, ce serait lequel, justement?
De combat,
exactement.
Si je devais en retenir qu'un, ce serait mon combat en Russie contre Andrei Semenov. C'était quelqu'un qui m'impressionnait beaucoup et qui était dans l'équipe du fameux Emelianenko Fedor. Je sais pas si vous connaissez, ça vous dit rien?
De nom.
Voilà.
Vivien connaît.
Donc je suis allé combattre en Russie.
Il a bourlingué, Vivien, il a bourlingué.
Contre un gars de la Red Devil, justement, et c'était très impressionnant. Et puis après, bah, il y a ce fameux Emelianenko Fedor qui est venu me féliciter. C'est comme si Pelé venait vous féliciter au Maradona.
Ouais, incroyable.
Et Greg, excuse-moi, Vivien, quelles sont tes actualités? Qu'est-ce qui te pousse encore aujourd'hui à vouloir encore combattre juste?
Ouais, après, je vais te dire la vérité. Quand on n'a pas d'objectif fort dans la vie, moi, en tout cas, j'ai tendance à me laisser aller. Donc, le fait que je sois mis en avant à travers une caméra et vu par des millions et des millions de personnes, ça me force à me maintenir en forme.
Tu te considères comme un exemple ou pas pour certains?
C'est pas que je me considère, c'est que je le suis de fait, de par les messages que je reçois. Okay. Il y a beaucoup d'admiration et de respect.
Mais par la notoriété aussi.
Oui. Bon, après, un exemple. Moi, je reste comme je suis. Je cherche pas à travestir ma personnalité. Je suis un couillon, je suis un foufou, j'aime bien la déconne et j'essaye pas de broder autour des choses, quoi.
Vivien,
alors dans notre équipe, on a une femme qui s'appelle Jen qui est championne du monde de grappling et je me demandais, est-ce que tu accepterais de relever le défi contre elle, peut-être en vidéo sur du grappling?
Bah, si elle veut, ouais, si elle veut se faire tordre, oui.
Voilà, c'est un petit défi pour les auditeurs. Mais
en plus, elle nous écoute, Jienne.
Justement,
hein, elle est active.
Qu'est-ce qu'il vient de dire, Abdel? Tu peux.
Jienne qui balance pour Greg.
Qu'on salue, hein, d'ailleurs.
Il peut en effet. On parlait de Tony Yoka qui dit: moi, je boxe tous les jours, je suis un. Il dit: il peut en effet le boxer tous les jours, mais l'intérêt, ce n'est pas de boxer tous les jours, mais de le battre ne serait-ce qu'une fois. Alors, est-ce que des déclarations comme ça par rapport à Tony Yoka, qui n'a pas connu forcément beaucoup de succès face à des grands adversaires, ça se fait dans, ça se fait de balancer ça face à quelqu'un qui est quand même expérimenté dans, dans cette discipline? Qu'est-ce que tu en penses de ce genre de déclaration un peu choc?
Bah, Tony Yoka est super fort.
Tu trouves?
Bah oui.
En potentiel, oui, il a raison.
Ouais, mais
en qualité de boxeur, oui, il a raison.
Non, mais après.
Ça fait un moment qu'il a gagné son titre, mais qu'on l'a pas vu progresser. Après, c'est d'un avis extérieur que je dis ça. Lancer un défi à Joshua qui a quand même confirmé, c'est quand même pour moi assez culotté. Après, peut-être que Greg, il a une autre vision.
Votre avis, Greg?
Très bien qu'il y aille, hein. Et c'est tout à son honneur de vouloir affronter les meilleurs. C'est un peu le rôle de tout combattant, c'est d'affronter ce qui se fait de mieux. Hein. C'est comme au foot, hein. Tu veux affronter le PSG, le Barça, et puis voilà. Hein. C'est pas un petit poussel, le mec, c'est quand même une montagne. T'inquiète pas qu'il se prépare dur et que de toute façon, on est deux sur un ring et tout peut arriver. Hein.
Et en plus, Joshua, il a un coup de moins bien, mais il a raison pour faire le parallèle avec le football. C'est comme le Canet Roussillon qui se défile pas avant d'affronter l'Olympique de Marseille en Coupe de France et qui les a battus, in fine. Tu vois ce que je veux dire, Claude? Donc après voilà, c'est pas un amateur non plus Tony Yoka. Je pense que voilà, il prend combat après combat, il a des ambitions. Là, il y a un combat qui s'est annulé. Et à un moment donné, il aura sa chance,
en fait,
à lui de la saisir.
Si vous voulez, c'est vrai,
on l'a pas vu.
C'est vrai que le sentiment que là, alors nous on n'est pas des spécialistes, mais on a le sentiment que il est amené à affronter des petits combattants. S'il y a pas de petits combattants, on attend peut-être un petit peu plus. Quel est votre ressenti par rapport à cela?
Non, t'as raison. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir que la personne aille tout de suite au charbon contre des très très bons. Mais bon, le mec, il se fait la main progressivement. Et puis là, tu vois, il a des ambitions. Il veut Joshua. Bah, ok, frérot. Après, c'est un sport de grande gueule aussi, la boxe anglaise. Les sports de combat en général. Donc, faut créer le buzz. Mm. C'est ce qu'il fait en exprimant ce genre de choses. Et puis, moi, j'espère que ça va se faire. Hein. Mm.
C'est comme dans Rocky IV. Rocky Balboa, avant d'affronter Ivan Drago, il se défoule sur des morceaux de viande dans les chambres froides. Donc, c'est pareil un peu pour Tony Yoka. Et peut-être que ça deviendra Rocky Balboa.
Peut-être. Vivien,
moi je me demandais quand t'étais combattant, est-ce que t'avais un peu la même personnalité que sur YouTube, c'est-à-dire quelqu'un qui pouvait être très détendu avant un combat et se mettre tout de suite dedans, hein, parce que par exemple ta dernière vidéo contre le Banner, c'est un peu ce qu'on voit, on peut te voir très détendu, mais d'un côté quand ça monte sur le défi, ça clique tout de suite. Est-ce que t'étais un peu comme ça avant un combat? C'était quoi ta personnalité?
Bah la personnalité de toute façon elle change au fil des ans. En vieillissant on est un peu plus posé, hein, je pense qu'on a fait nos preuves entre guillemets, on a un peu moins de testostérone, donc on est moins agressif. Mais non, ce que je fais sur YouTube, c'est des sparring qui sont plus ou moins appuyés, mais ça reste un sparring, donc on va pas au charbon, on n'est pas là pour tuer l'autre. Donc ça n'a rien à voir. Quand on fait un combat, la technique elle change, l'état d'esprit il change, et puis l'autre en face, il faut vraiment vouloir le tuer. Et je dis pas ça, c'est pas une façon littérale de dire, on a vraiment envie de le tuer le mec.
Greg, il y a eu le,
ah, si, oui.
le, il y a eu le Covid qui est passé par là, mais comme je te le disais tout à l'heure quand t'es arrivé, on est dans une période aussi qui est encore compliquée potentiellement avec les sports qui peuvent s'arrêter à tout moment. Comment on se prépare déjà mentalement et comment on se prépare aussi physiquement si jamais il y a plus de compétition d'un coup?
Bah moi ça me concerne pas, je suis plus un compétiteur, tu vois. Donc moi je fais mes vidéos de mon côté, donc on a le droit de faire des vidéos, donc le Covid, je ressens rien par rapport à ça,
ça te touche pas directement, t'es pas impacté?
Non, moi je m'entraîne quoi qu'il arrive, qu'il y ait des salles ouvertes ou pas, je m'entraîne, il y a toujours moyen de s'entraîner aussi avec les copains, on est 2-3 et puis vas-y. Hein.
On en voit quoi.
Ouais. Ouais, c'est ça, c'est l'autonomie, hein.
Non mais faut pas attendre de l'État qui nous donne le feu vert, le feu rouge, le feu vert. Bah frérot,
faut y aller, il y a toujours moyen de s'adapter, toujours des solutions. Ouais, bonne exactement. Réponse. Hein.
Moi j'ai une question encore pour Greg, peut-être une dernière pour moi. Il fait des sparring un peu appuyés avec certaines personnalités dans différentes disciplines.
Tu parlais avec pas mal de défaites, faut l'avouer.
Il arrête pas, Vivien.
Vivien va prendre un coup dans l'œil. Il va rien comprendre. Quel est l'adversaire, tu te dis, sur un sparring, tu te dis, En fait, il m'a l'air, ça a l'air d'être quelqu'un de très très dur, ou bien il m'a l'air compliqué, ou bien ah ouais, c'est quelque chose. En mode Jérôme Le Banner, lorsque t'as croisé avec lui, par exemple.
Bah ouais, bah c'est assez difficile de répondre à cette question, étant donné le.
Genre sur les premiers coups, sur les premiers échanges.
Bah alors, il y en a qui sont très rapides, très vifs. Donc par exemple, ça va être Saladin Parnasse. Il y en a d'autres qui vont avoir l'œil du tigre, il a jamais rien lâché l'affaire, ça va être le Major Gérald par exemple. Il y en a, tu vas les frapper, tu vas rien sentir, comme Jemma Belkodja, champion du monde de karaté Kyokushinkai. Il y en a, ça va être des forces de la nature, ils t'attrapent, tu comprends rien, comme Thomas Luberson. Il y en a d'autres qui vont avoir des techniques fabuleuses, tu vas rien comprendre, comme Luc Rousseau. Chaque combattant a une spécificité qui lui est propre, et c'est à moi de trouver les armes pour le contrecarrer. Mais de toute façon, en face, à chaque fois, j'ai des bestiaux, donc c'est jamais
c'est
évident.
Ouais,
mais bon, de temps en temps, je gagne, oui.
Et Jérôme Le Banner, c'est quoi sa qualité?
Jérôme Le Banner, il n'a que des qualités.
Que des qualités, d'accord,
okay. Ça mettrait trop de temps, on faudrait rester jusqu'à 22h tellement il est fort.
Non, mais c'est vrai que c'est une légende. On n'en parle pas assez, mais...
Ouais donc enfin, quand c'est ça, quand tu te retrouves face à lui, c'est comme si tu faisais un one-on-one avec Michael Jordan, tu vois.
Exactement.
C'est ça, hein.
On l'a suivi à l'époque, moi je suivais à l'époque de l'apogée du K1 avec les Ernesto Houst et compagnie, les Micro-Procop, Peter Hart, exactement. Donc c'était Jérôme Le Banner, on avait des étoiles dans les yeux quand on regardait ses combats.
Greg, des sportifs qui vous ont inspiré?
Serge Blanco par exemple.
Pourquoi Serge Blanco?
J'aime tous les combattants qui ont du style. Hein, lui c'était un félin, un magnifique athlète. Yannick Noah aussi en tennis, grand athlète aussi. C'est pas forcément les meilleurs, mais c'est des gens qui, même quand ils perdent, ils ont du panache, ils ont la classe. Tu vois, c'est pas des mecs qui jouent en fond de cour et qui sont chiants. Pareil pour Serge Blanco, il arrivait à inventer des techniques particulières. Et puis voilà, c'est le genre de personne que
Mike j'admire. Tyson.
Mike Tyson, bon en anglaise, voilà, c'était, y a pas mieux. C'est magnifique, il a des esquives, une rage en lui, et puis il a une histoire derrière qui lui donne une aura conséquente. Donc, grand athlète, Michael Jordan, bien sûr,
ouais.
Qu'on a suivi à l'époque, la grande époque des Bulls. Je pense qu'on a certains le même âge que moi ici, donc. Hein, toi, non? Tu fais
Non, un peu moins. Non.
Mais si,
j'ai la même coupe de lien, mais.
Il a une coupe de quelqu'un qui a. qui a le même âge, hein.
Il a ma taille tout à l'heure, donc.
C'est vrai qu'il a une coupe de pré-retraité.
Et puis au football, Ginola que j'aimais bien. Georges Weah aussi.
Ouais, la grande époque du PSG.
Ah, magnifique.
Ouais.
Et puis, comment il s'appelait le gardien de but là?
Bernard Lama.
Bernard Lama. Ouais. Jérémy Jeannot que je salue, s'il m'écoute.
C'est un gardien de la SM.
Ah oui, Jérémy Jeannot qui
pratique aussi.
C'est ça.
Qui
pratique le MMA.
Il va me casser la gueule à chaque fois.
Spider-Man.
Spider-Man. C'est la tendance, hein, les gardiens de la SSE. Hein.
Déguisement Spider-Man.
Ruffier aussi, il y a une dégaine de combattants d'MMA.
Duchesse.
Peut-être que le dernier un peu moins. C'est James, c'est ça?
Qui
le gardien de Saint-Etienne, le gardien anglais?
Green,
autant pour moi. Il me fait penser à Calemity de James, c'est pour ça. Donc voilà, donc non, mais c'est toujours intéressant de faire le parallèle entre le football et les MMA.
Merci, Mourad. Une petite pub, on se retrouve juste après.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Troisième mi-temps, on est de retour sur l'émission Time Sport sur Beurre FM avec notre invité du soir, Greg Emema, et puis mes consultants, Mourad Abdel, monsieur Vacances de Noël. Il a fait toutes les émissions. Hein, il avait disparu des radars, et là, le mercato arrive, hop, il réapparaît.
Ah oui, Abdel, il est comme le Boxing Day. Il vient combler les trous.
Inzaghi.
C'est ça.
Qu'il y a des périodes de calme.
Et Vivien, avec nous, qui a ses cheveux qui repoussent. Allez, on passe à la suite.
Time Sport. La troisième mi-temps. La troisième mi-temps. La troisième mi-temps.
Les amis, ça sent le roussi. Ousmane Dembélé, Barça. Alors que Xavi a estimé que il comptait visiblement sur l'international français. Le torchon brûle là, c'est compliqué.
Ouais. Très rapidement, moi sur Dembélé, c'est quelqu'un qui pour moi était pas forcément de l'ADN Barça quand on l'a recruté. Il a eu du mal à s'acclimater, mais forcément. Avec le temps, on a quand même vu qu'il avait progressé malgré la valse des entraîneurs. Maintenant, beaucoup de blessures, beaucoup de problèmes extrasportifs qui font que on a beaucoup de chance que tu as été recruté ici pour une grosse somme d'argent. Maintenant, on te redonne une chance, on voit qu'il y a un projet qui, comme on le disait hier, va prendre du temps à se remettre en place, mais il peut être un peu la tête de gondole de ce projet-là. Et comme tu l'as dit en intro, Xavi lui fait confiance. Maintenant, on voit que c'est l'entourage qui fait pas mal de mauvaises choses, qui est très gourmand, parce que, ok, on demande un salaire très élevé, mais une prime à la signature pour re-signer dans le club dans lequel t'es, c'est du jamais vu. Personnellement, je trouve ça dommage, parce que vu le potentiel du mec, eh ben son entourage est en train de le bousiller et lui n'arrive pas à sortir des griffes de ces personnes-là.
Mourad,
je pense que sur Time Sport, on parle assez de l'influence néfaste qu'ont les entourages sur certains joueurs, etc. Et là, c'est l'exemple ultime à enseigner dans toutes les écoles de commerce. C'est quoi ? C'est 20 millions de primes à la signature et 40 millions de salaire annuel, c'est ça ? Donc moi, la question que je me pose, c'est que est-ce que son agent, est-ce qu'il est connecté à la réalité du football, de l'environnement business, du football en général, sur tous les plans, que ce soit sur le plan économique, sur le plan sanitaire, sur le plan sportif. Est-ce que il est conscient que Xavi comptait sur lui, qu'il l'inscrivait sur le long terme dans le cadre du renouveau du Barça ? Est-ce qu'il est au courant des déclarations de Laporta, où justement il le compare à Mbappé, même si on sait que c'est pour faire valoriser son joueur. Laporta le dit lui-même, il est meilleur que Mbappé, donc tout le monde compte sur lui. Est-ce qu'il regarde les matchs ? Est-ce qu'il sait que aujourd'hui Dembélé, depuis 4 ans, c'est des blessures à répétition, c'est 0 but cette saison en Liga, et toutes compétitions confondues, pas qu'en Liga. Donc voilà, c'est les questions que je me pose. Et là, je me dis, le but d'un agent, justement sportif, en l'occurrence, ça peut être le cas pour d'autres disciplines, mais c'est œuvrer dans l'intérêt du joueur. Est-ce que, je ne sais pas qui est son agent, est-ce que cet agent en question œuvre dans l'intérêt de Dembélé ? Je ne pense pas. Je pense que, justement, là, il avait déjà une étiquette d'un point de vue comportement très très compliqué, avec les retards multipliés, avec tous les écarts qu'il a pu avoir d'un point de vue comportemental. Et je pense que voilà, le comportement de son agent, les négociations, même s'il a un argument qui est légitime, il se dit, il y a certains joueurs qui ont des performances en Dancy, comme Coutinho ou comme Griezmann, qui avaient un certain niveau de salaire, donc je vais essayer d'aller les talonner, parce que potentiellement Dembélé, il peut éventuellement les chatouiller, mais à l'instant T, et sur ces 4 dernières années, il ne peut même pas prétendre au demi-salaire d'Antoine Griezmann, par exemple.
Mais ce qui
Antoine
se passé...
Griezmann, il s'est battu sur le terrain, ouais. Il a été très rarement blessé, c'était une question de philosophie incompatible, c'était pas une question de performance. Là, on parle de performance, on parle de quelqu'un
alors,
qui
ma
joue
question,
pas.
Ma question, Mourad, alors, il va pas continuer, vraisemblablement, au Barça, mais pour aller où, quel club ?
C'est très bien que tu fasses la...
Il disait la Juventus, je crois.
Non, regarde, tu vois là, les joueurs comme ça, Quand il y a de l'argent à les prendre, ils vont tout de suite aller se mettre devant le Paris Saint-Germain, qui vont sûrement être contents d'avoir un joueur qui demande je sais pas combien d'argent pour le joueur et pour le club. Je suppose, je dis bien ça parce que c'est le club qui paye tout et n'importe qui.
Et ça perpétue la tradition des joueurs français qui ont du mal à s'imposer dans ce club qui est le FC Barcelone. Après, qui sera le dindon de la farce pour recruter un Ousmane Dembélé et tout son entourage,
la bande, ouais.
Agents, etc. Je pense que c'est je vois que deux clubs, il y a la Juventus apparemment. Peut-être que l'institution est tellement forte qu'ils n'oseront pas faire ce genre de proposition. Là, Laporta a tapé du poing sur la table, il a fait valoir justement la force de l'institution, et c'est ça la force de l'institution.
Bien sûr.
Ça serait Bartomeu, il aurait peut-être accepté, il aurait prolongé Dembélé et puis advienne que pourra, et on aurait continué dans ce bourbier parce que le Barça est endetté à hauteur de 1 milliard de dollars, je pense. Ça aurait continué et là on serait dans un cercle vicieux et on creuserait la tombe financière du FC Barcelone.
Allez, voilà. On passe au mode pressing.
Time Sport, le mode pressing.
Tourelle Chelsea, ça n'avance plus, compliqué, difficulté. Tourelle est arrivé il y a de cela un an, Vivien, avec en ligne de mire la Ligue des Champions, mais depuis c'est un peu plus compliqué.
Oui, et en ligne de mire aussi la Première Ligue. Enfin, sur les 5 derniers matchs, Chelsea perd 6 points sur City, parce qu'ils ont fait 3 matchs nuls et 2 victoires, si je me trompe pas. Donc après, faut aussi rappeler que ils ont quand même eu 6 blessures sur les 3 derniers matchs. On va mettre de côté tous les joueurs absents à cause du Covid, parce que c'est la réalité. Donc
Tourelle, il a le droit de se plaindre, parce qu'il a émis un coup de gueule en disant que il y a des clubs qui sont très très bien lotis par la Football Association en Angleterre, par la FA,
ouais.
Qui sont dispensés, qui sont exonérés de certains matchs, qui sont Manchester United, Tottenham.
Je pourrais expliquer justement ça.
En fait, il y a Manchester, Tottenham qui sont ravagés par le Covid, voilà, et par certaines blessures, et qui voient en fait leurs matchs durant ces périodes de fêtes être reportés. Chelsea est à peu près dans le même cas. Ils ont des Timo Werner, ils ont des Kai Havertz qui sont atteints par le Covid. Ils ont de multiples blessures. Et ben eux, le report de ces matchs, ben ne sont pas mis en place. Donc c'est un coup de gueule de Tourelle. Après, d'un point de vue purement sportif, Tourelle, il se la joue un peu Sampaoli, un peu Elibo, en mode je gagne par la plus courte des marges et ensuite advienne que pourra. Ben au bout d'un moment, ben t'as le contre-coup, t'as l'effet qui se coule. Ben t'as des contre-performances. Et je salue hier la performance de Brighton, des Seagulls. Pour moi, c'était un des plus beaux matchs de ces périodes de fête. Les matchs de Boxing Day, les matchs de période de fête, etc. sont des très beaux matchs. On en a pas eu beaucoup. Là, le match d'hier avec le but de Welbeck dans les arrêts de jeu était incroyable. On l'ancien a vu justement Gunners. l'ancien Gunners, mais surtout l'ancien Mancunien. Moi, je le considère comme un Gunners en CDD. On a eu des Yves Bissouma, on a eu des Neil Mopé. Brighton, surtout en seconde mi-temps, a livré une prestation incroyable à Stamford Bridge. Donc voilà, je pense qu'il doit revoir un peu sa copie, revoir son système de jeu. On ne joue pas il y a un an comme on joue aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ils sont attendus. Donc il va falloir un peu sortir et ils ont les joueurs pour.
Ouais, justement, c'est vrai qu'on peut prendre que Thomas Tuchel n'a pas la langue dans sa poche. Dès qu'il y a un coup de gueule à émettre, il dénonce. Mais maintenant, c'est vrai que si d'un point de vue sportif et sur le terrain, ça marche pas, c'est que il y a des choses qui sont pas réalisées. Quand on voit les compositions qu'il met en place, à part en cup où il a été beaucoup pénalisé, il a pratiquement son effectif qui est capable de doubler voire tripler à certains postes. Tu fais pas jouer des joueurs comme Saoul et autres. Finalement, voilà, tu payes un peu
c'est compliqué. Vivien rapidement.
De la médaille.
Ouais, clair, rapidement, faut qu'il s'adapte. Et avec la profondeur de son effectif, malgré les absences, je pense qu'il peut proposer autre chose. Et notamment hier, en deuxième mi-temps contre Brighton, où il aurait pu peut-être tenter des choses pour aller chercher le deuxième but.
À noter que dans trois jours, il y a Liverpool-Chelsea, justement. Ouais.
Notre invité, Greg Mema, et son livre, Greg Mema, Tous mes combats aux éditions Solar. Greg, merci infiniment en tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir dans votre émission.
Bah merci à vous, c'est très sympa.
Dédicace peut-être pour finir.
Dédicace.
Ouais.
Non.
C'est bon. Ok. Parce qu'on a dit qu'on a une bonne équipe, donc nous on retiendra que ça.
Il souffre pas de notoriété, Greg. Ouais. Pas besoin de dédicace.
Et tranquille hein, quand même. Hein. Merci infiniment.
Merci,
Greg.
Merci à vous, les gars.
Merci les consultants. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve à demain pour la dernière de l'année. Eh ouais. Avant le réveillon.
Pas de Boxing Day alors. Enfin pas de. Ah si, demain on est le 31 déjà.
Ça très vite.
Je fais des petits anachronismes, autant pour moi.
Allez, bonne soirée. On se retrouve demain pour la dernière.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.